Le titre annonce une amère saveur, hein, puisque il est entre guillemets le plus beau métier du monde, et bien sûr la lecture montrera que il y a une distance entre le rêve et la réalité.
Les entrées du livre sont, il y en a plusieurs, beaucoup, le chant de la haute couture, le néolibéralisme, puisque le monde de la haute couture actuellement illustre parfaitement des aspects du néolibéralisme, le monde des créatifs, et puis bon, la question du luxe, voilà, ça fait beaucoup d'entrées. Il y a en gros trois parties dans ce livre, mais j'ai trouvé que c'était une espèce de voyage initiatique dans ce monde de la mode, voyage initiatique avec ce que cela comporte de cheminement sinueux qui ne présente pas du tout, je trouve, la clarté d'un jardin à la française, mais peut-être cela m'a-t-il échappé et on pourra évidemment en reparler. Moi, j'adopterai une présentation en quatre points. C'est le droit que s'arroge un présentateur dans ce genre de présentation. On peut reconstruire un peu le livre. Voilà, on pourra en discuter ensuite. Bon, il y a beaucoup de personnages dans ce travail qui est à dominante ethnographique, mais pas seulement. Deux personnages qui, à mon sens, se détachent, et ceux de Mia, qui est quelqu'un qui fait essentiellement des reportages photos, et d'un homme qui s'appelle Thierry, et qui, lui, a été un grand styliste, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et c'est les personnages qui me semblent avoir livré le plus d'informations sur l'univers en question, mais les autres peuvent être parfois aussi extrêmement intéressants. Alors, premier point, comment fonctionne l'univers de la haute couture? Donc, c'est une présentation un peu des règles du jeu. Hein, première chose, l'autonomisation d'un champ de la haute couture à travers ces indicateurs que sont le défilé, la griffe et la collection. Ça a été un processus de longue durée qui a consisté à inverser les rapports entre une clientèle d'élite et des fournisseurs. Donc ce n'est plus comme au XVIIIe siècle où les grands de ce monde allaient dicter ce qu'ils voulaient aux couturiers, je ne sais pas si on vous appelait comme ça. Au contraire, apparaissent des figures qui vont constituer un univers d'offres face auxquelles les différentes fractions des classes supérieures vont avoir à choisir. Donc la structuration d'une offre à travers justement les grands couturiers. Je précise que le processus s'effectue notamment à Paris, qui a été la capitale, ça pose aussi les problèmes de qu'est-ce que c'est qu'une capitale. Il faudrait comparer avec Paris, capitale littéraire, dont parle par exemple Pascal Casanova. Bon. Alors une grande figure de cette autonomisation, ça a été le couturier Vogt, ou Vogt, je ne sais pas comment on prononce, sous le Second Empire, qui a été à l'origine de toutes ces transformations. Bon, alors, je vais très vite, parce que le livre n'est pas essentiellement un livre historique, ce n'est pas son ambition. Les transformations au cours des années 90 qui ont été accentuées par la crise financière de 2008. Alors, en quoi ont consisté ces transformations? D'abord, le phénomène de mondialisation et de délocalisation. Délocalisation plus ou moins dissimulée, parce qu'il est difficile de faire accepter à des gens qui rêvent de Paris que leurs fringues ont été fabriquées en Chine. Bon. Ensuite, l'apparition de nouvelles métropoles, donc en dehors de Paris, qui gardent malgré tout cette institution qu'est la chambre syndicale de la haute couture, avec une élite de 13 membres permanents et par rapport auxquels les autres grands couturiers vont devoir se situer. Donc, voilà, on considère que le marché hors Europe, je me trompe peut-être dans les chiffres, que l'Europe, pardon, ne représente plus que 30% à peu près de ce marché. Bon, ensuite, phénomène de concentration avec de très grands groupes qui sont consacrés à la mode, de façon principale, en particulier LVMH, dont il est question dans un autre livre qui est Enrichissement de Botanskiesker, où il parle longuement de LVMH. Bon, apparition d'une clientèle très riche alors dans des pays émergents, avec, alors je cite des chiffres qui m'impressionnent, les robes de plus de 15 000 euros, etc., enfin qui sont... Ensuite, autre trait, donc l'écart entre l'hyperluxe, qui lui est censé être attesté par le Made in France, et puis le haut de gamme de confection, qui lui n'est pas nécessairement fabriqué en France. Enfin, alors là c'est un tournant décisif, c'est le rôle croissant des médias et de la visibilité. Alors vous avez été un peu prise dans ces débats ou faux débats, on pourra en rediscuter, autour de la visibilité. Disons que être vu devient quelque chose de tout à fait déterminant dans cet univers de la mode. Et au fond, si j'ai bien compris, les défilés... constitue le télos, enfin le terme du travail des grands couturiers. Il faut montrer ce qu'on a fait dans des événements de prestige qui sont d'ailleurs onéreux, enfin, avec des mannequins qui sont très bien payés, etc. Cette visibilité, évidemment, joue une fonction de légitimation, puisque les grands couturiers sont ceux qui s'imposent dans les grands défilés. Mais par ailleurs, vous parlez d'une tautologie, c'est-à-dire que les grands annonceurs paient les journaux qui vont présenter des reportages consacrés aux productions de luxe de ces mêmes annonceurs. Donc c'est un univers de circularité un peu incestueux, enfin un peu, voilà, où... l'argent et le prestige vont dans le même sens et toujours vers les mêmes. Bon. Alors, autre aspect, c'est l'aspect sociologie du travail, c'est-à-dire le rôle croissant des services marketing et management et l'accroissement des contraintes de division du travail et des hiérarchies. Alors qu'autrefois, vous aviez un styliste qui était un homme, alors là on parlera, ou une femme, je ne sais pas, un homme ayant d'expérience, réputé, etc. Maintenant, ces gens-là ont disparu et nous avons affaire à un staff avec un chef styliste qui est le grand couturier, qui va lancer un thème à partir d'une iconographie. Je n'ai pas très bien compris là, c'est une des questions que je pose. Donc il lance un thème comme ça, et puis ensuite il y a toute une armée de stylistes qui vont reprendre ce thème, les uns pour les chemisiers, d'autres pour les jupes, d'autres pour les sacs, etc. Ce staff qui est dominé par un chef styliste qui va s'adresser à une première d'atelier, c'est l'ouvrière chef quoi, qui va lancer un modèle qui, lui, se fait sur moulage en bois, et non pas sur des modèles patrons, voilà, patrons, ce vieux souvenir d'enfance. Et on a en moyenne 10 couturières qui vont travailler sur un modèle, et il faut savoir qu'il faut plusieurs mois entre la commande et la livraison. Autre trait de ces transformations, l'essor des écoles de mode avec une population surnuméraire de stagiaires disponibles. Enfin, toute une population, en dehors des couturiers évidemment, toute une population de mannequins, de photographes, de stylistes reporters, de maquilleuses, de coiffeuses, d'habilleuses, de manucures, etc. etc. Alors, le luxe procure aux grandes maisons des profits moins économiques, c'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas finalement tellement là-dessus, mais surtout des profits symboliques, avec ce que ça implique, c'est-à-dire en particulier la dénégation de l'argent, la dénégation du commerce. Ce qui se manifeste par une forme de sacralisation du luxe et la manifestation d'un écart avec l'univers profane, commercial, etc. En effet, il y a une séparation entre les revues de prestige, qui ne sont pas nécessairement les revues qui payent le mieux, et puis la presse commerciale, où les mannequins peuvent gagner convenablement leur vie. Les mannequins qui donnent dans la haute couture ne doivent pas se commettre dans des publicités vulgaires. Les vendeurs, vous analysez le cas d'un vendeur, doivent agir comme des ambassadeurs de la marque qui sont là pour conseiller, accueillir et pas pour fourguer la marchandise à tout prix, comme ça se fait dans le cas des... Il y avait eu un excellent reportage dans France 2 sur les vendeuses de fringues de sous féminins qui sont payées, qui sont en mesure au quart d'heure près ce qu'elles ont réussi à vendre. Là, au contraire, on a affaire à des gens qui affichent de la distance par rapport à l'acte de vente. Enfin, chose très intéressante aussi, les défilés à l'étranger sont tenus cachés, parce qu'il faut maintenir l'illusion, ou l'illusio, je ne sais pas, de Paris, capitale de la mode, de l'élégance, etc., et le fait de présenter, évidemment, à l'étranger, d'être payé par des nababs du pétrole, ça, c'est pas bien, ça se cache. Bon, voilà donc les règles du jeu de la mode. J'en viens aux conditions de travail et au style de vie. Alors, vous parlez d'un modèle post-fordiste. Donc, vous trouvez votre modèle d'analyse dans la sociologie du travail actuel qui insiste justement sur les nouvelles valeurs. Vous citez, je crois, Boltanski, le livre antérieur là, sur le nouvel esprit du capitalisme, où ce sont des valeurs de création, d'autonomie, d'individualisation, d'engagement de la personne, où il faut être enthousiaste, etc., être content, faire preuve de dynamisme et agir dans des réseaux un peu informels, enfin, qui ne ressemblent pas au bureau de la préfecture de police du 19e siècle. C'est un univers qui se déplace. Alors, vous nous faites nous promener un peu dans Paris pour des prises de vue, pour des défilés, etc. Tout ça est très souple. Bon, alors, modèle post-fordiste, il y a beaucoup d'ateliers de sous-traitance et des gens qui travaillent en intérim, avec de plus des stagiaires non rémunérés, avec la complicité des écoles pour un travail où la part d'apprentissage est quasi nulle. Bon. Les agences, c'est-à-dire des instances dans lesquelles, évidemment, les gens qui travaillent dans la mode sont plus ou moins obligés de s'inscrire pour avoir accès à des clients. Et ces agences prennent à peu près 30% des gains. Mais il faut savoir que ces gains sont inclus des activités faites hors agence par les individus. Autrement dit, vous êtes... travailler pour une agence, mais si par ailleurs vous arrivez à vous faire du fric, il faut en faire bénéficier l'agence. Alors, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que les agences vous enferment dans un espèce de cycle d'endettement implacable, c'est-à-dire que lorsque vous voulez vous adresser à des gens, vous envoyez des lettres, tout ça, les timbres sont facturés par les agences et viennent en déduction des honoraires, commission que l'agence vous doit tenter, si bien qu'il arrive fréquemment que des individus, des mannequins, etc., soient endettés par rapport à l'agence et continue à travailler pour payer, pour les payer, enfin, régler leurs dettes. Les revenus sont bas, souvent, et il arrive fréquemment qu'on ait affaire à des gens qui gagnent 1000 euros par mois. Ces revenus sont irréguliers et du coup, les conditions de vie, évidemment, des individus qui travaillent là-dedans s'en ressentent. Il y a souvent des gens qui vivent dans des logements étriqués, enfin, avec, je ne vais pas faire un dessin, à Paris, avec 1000 euros par mois. Voilà, alors, Mia, dont vous parlez, elle a un petit logement avec la cuisine, enfin bon, qu'elle partage plus ou moins avec quelqu'un d'autre. Derrière un paravent, enfin bref, voilà, porte de la chapelle, voilà. Les repas sont des repas vite faits, voilà, on bouffe un peu n'importe comment, évidemment, bon, c'est clair. Enfin, une part importante du travail est non payée. Puisqu'il s'agit de donner son temps sans compter. Quand vous êtes avec des génies de la mode, vous n'allez pas les embêter avec le petit qu'il faut aller chercher à la crèche ou des choses comme ça. Enfin, on fait bon. Voilà. Vous notez un cas intéressant de quelqu'un qui n'est pas payé, qui voudrait réclamer, alors il attend toujours le moment pour... mais c'est pas le moment d'embêter, alors on lui dit, c'est pas le moment d'embêter X maintenant avec des problèmes d'argent. Donc les problèmes d'argent sont secondaires pour les salariés, évidemment, enfin pour les employés. Voilà, en parler, c'est indigne. Enfin, et c'est un même aspect, il faut savoir rester à l'ombre des grands. Ce qui est une forme de travail non payé. Dans le cas de Thierry dont vous parlez, il a conçu des modèles, etc., pour la Lagerfeld, vous donnez le nom, mais surtout, il ne s'agissait pas de proclamer urbi et orbi que, en fait, la Lagerfeld, c'était lui. Hein, donc, il faut travailler comme ça pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation, alors chic, peut-être, mais... enfin, néanmoins, c'est bien de cela qu'il s'agit. Enfin, opacité des rémunérations. On ne sait pas très bien ce que gagne le voisin, si j'ai bien compris. Ça doit se faire à la gueule du client. Enfin bon, mais toujours avec une pression vers le bas des rémunérations. Il arrive aussi, et ça fait partie justement de cet univers enchanté, qu'il y ait des rétributions en nature. C'est-à-dire qu'un de, je ne me rappelle plus qui, un de vos personnages, c'est peut-être Mia d'ailleurs, arrive avec un sac qu'on lui a donné à 5000 euros. Mais ce sac, évidemment, une fois qu'elle a ça chez elle, elle ne sait pas quoi en faire. Je ne sais pas si avec le bon coin, elle aurait pu en toucher le dixième. Enfin bon, voilà, c'est des gestes comme ça qu'on fait. Lagerfeld, justement... Et quelqu'un qui sait se montrer grand comme ça en distribuant des accessoires aux gens qui l'emploient. Il arrive enfin qu'il y a un certain nombre de pratiques plus que douteuses, des vols de modèles, de dessins, etc., des coups bas, enfin voilà. Ou des contrats perfides. Alors, vous racontez un cas extrêmement intéressant, c'est celui de Corinne. Corinne avait réussi à faire une petite entreprise avec son logo. Des Chinois s'entichent de son travail et lui envoient un contrat pour travailler, entre guillemets, avec elle. Mais finalement, alors le contrat est rédigé en chinois, elle arrive, un contrat de 700 pages, je ne sais pas, fait quelque chose d'extravagant, rédigé en chinois, elle arrive à comprendre de quoi il en retourne, et elle se rend compte que, par ce contrat, elle aurait autorisé la boîte chinoise à s'approprier de son logo. Donc elle s'en serait trouvée des saisies. Enfin, néanmoins, elle va devoir se battre... contre cet employeur. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, puisque si elle n'avait rien signé à ce moment-là, bon, Elle doit payer 7000 euros de frais d'avocat, ce qui est évidemment pour quelqu'un qui gagne, comme je vous l'ai dit, des choses. Bon, c'est quand même très lourd. Bon, troisième point, c'est ce que j'appellerais la violence symbolique. Violence symbolique, en essayant de poser la question, qu'est-ce qui fait marcher les gens ? Alors d'abord, ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit d'une violence cool, avec une dénégation permanente des hiérarchies internes. Donc c'est un univers, évidemment, cool, où on est tous égaux, où on est content d'être là, etc. On se fait des bises, on s'adore, on a du my love, du honey, vous parlez d'un enthousiasme souvent surjoué. Alors on est content de se voir, formidable, j'ai vu un voyage, hein, tu me fais plaisir, etc. Voilà, on s'adore. Donc tout ça nous conduit vers l'idée que nous aurions affaire à une sorte de salariat ou de relation employeur-employé qui n'est pas normal, qui n'est pas normal, qui n'est pas ordinaire. Il y a une espèce de mythologie de la bohème qui conduit les gens à s'accoutumer à l'irrégularité des emplois du temps, à l'irrégularité des humeurs, avec des divas, mais qui sont quand même des gens tellement exceptionnels qu'on peut leur pardonner tout ça. Une forte personnalisation des relations personnelles. On peut imaginer qu'un sourire de Karl Lagerfeld, ça vous met par terre et que vous lui pardonnez beaucoup de choses après. Enfin bon. Voilà. Alors comment tout ça tient ? Eh bien, d'abord, il me semble qu'il y a une réponse morphologique, c'est-à-dire une main-d'œuvre surabondante. Il y a une rareté des élus et des conditions d'entrée difficiles. Donc c'est un univers dans lequel il y a d'emblée quelque chose comme de l'injustice et qui s'articule avec l'espoir de décrocher le gros lot, ce que vous appelez le jackpot. Et là, je voudrais citer les propos de Karl Lagerfeld. Je ne mettrai pas l'accent. Il dit ceci. C'est les métiers par excellence, comme la mode, comme le cinéma, c'est l'injustice, l'injustice totale. Ce n'est pas que vous avez envie de faire quelque chose que ça marche, et ça marche, pour des raisons inexplicables, c'est une injustice totale. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, les gens sont... il y a peu d'élus, mais les gens qui vont là-dedans savent qu'il y aura peu d'élus, mais avec toujours l'idée que ça pourra tomber, enfin, qu'on pourra être choisi, etc. Enfin, que... voilà. Alors, alors, ce qui fait tenir, donc rareté des élus, on sait que ça va être dur, on vit dans cet univers enchanté, et en même temps, on accepte tout ça en pensant à l'avenir, parce que souffrir, ça va être bon pour le CV. Hein. On dira qu'on a été dans tel défilé, ou qu'on a été dans tel... voilà. Donc, il faut savoir souffrir. Souffrir, c'est bien pour l'avenir. Et par exemple, on ne peut pas se permettre de refuser tel job dans une agence parce que on serait marqué en refusant quoi que ce soit. Il faut tout accepter. Et évidemment, ne rien revendiquer. Et enfin, se montrer extrêmement discret. Et cette discrétion est elle-même imposée et stipulée dans les contrats. Qui, d'après ce que vous dites, sont plus ou moins, vont à l'encontre même de la législation du travail. Bon. Voilà. Alors, évidemment, dans un tel univers, les hiérarchies sont très réelles. Vous analysez plusieurs séances de shooting, c'est-à-dire de photographie, avec... c'est là qu'on retrouve les maquilleuses, les... enfin, tout, 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 personnel, les photographes, maquilleuses, évidemment les habilleuses, tout ça. Il y a quelqu'un qui mène tout cela, c'est évidemment la personne qui s'occupe du reportage photo et qui d'emblée se présente comme une diva ou comme une star. Par exemple, vous citez le cas à un moment donné de quelqu'un. Alors c'est une scène affreuse d'ailleurs, hein, une scène affreuse dans laquelle vous avez un couple, officiel ou officieux, je ne sais pas, où une. Il y a une. Je ne sais pas si c'est elle ou lui, qui assiste comme ça la photographe, et. Donc elle est en train de prendre ses photos et elle a l'assistant ou l'assistante, je ne sais plus, qui est à 50 cm derrière. Autrement dit, elle pourrait très bien prendre ses accessoires elle-même.
Sa bouteille d'eau, oui, c'est ça. Hein, c'est la photographe qui a la bouteille d'eau derrière elle, qui pourrait la prendre, mais qui ordonne à l'assistante qui est de l'autre côté de la pièce.
Voilà. Tout ça devant la petite amie enfin, qui assiste à toute cette scène. Alors il dit, tu dois toujours être derrière moi, c'est compris. On ne me fait pas attendre, je suis une diva, etc. Donc, il y a tous ces... Ce qui est aussi terrible, c'est ce pauvre stagiaire, André, qui demande à sortir plus tôt, un jour, vers 6 heures, je crois. Parce que, alors il dit, mais pourquoi tu veux sortir plus tôt? Il dit, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Oh, Saint-Valentin, alors ça provoque une réaction accablée comme ça, Saint-Valentin, etc. Enfin bon, c'est des choses, parce qu'il doit aller avec sa fiancée dans un resto, c'est d'un cucu, enfin ça ne se fait pas dans ces milieux. Alors, va de pair évidemment avec... cette terreur, au fond, cette terreur de la hiérarchie, des relations, des formes de résistance, mais qui se font comme ça, par des petites remarques, des propos désabusés, quelqu'un qui dit « oui, eh ben moi je suis lèche-cul parce que c'est comme ça, ça fait plaisir à un tel, elle pense que je suis complètement docile ». Je dis toujours oui, c'est très bien, etc. Voilà, enfin, donc ça vous est raconté par cette personne. Voilà. Enfin, que dire de ces malheureux stagiaires qui sont mobilisés pour un défilé? C'est un peu parce que c'est des stagiaires qui sont à Bruxelles. Et ensuite, alors pendant des semaines ou enfin, un certain temps, ils travaillent pour un défilé qui va avoir lieu à Paris. Donc les divas et les vedettes vont aller là-bas en voiture, je ne sais plus, et toute la masse va se déplacer en car, je ne sais pas si c'est des cars Macron, mais enfin, depuis Bruxelles, ils arrivent, et puis ensuite il faut se loger, etc. Donc on se sert dans des lits, dans des chambres, enfin bon. Et à la fin, il y a un repas qui coûte, je ne sais pas, 25 euros, je crois, quelque chose comme ça, ils s'imaginaient que comme ils ont assisté au défilé, ils vont avoir quand même quelques miettes, mais non, pas du tout, ils vont devoir débourser ça. Donc, évidemment, ces stagiaires sont très amers. Voilà. Alors, donc, c'est un univers, pour conclure sur ce point, c'est un univers qui vit dans le dédoublement, c'est-à-dire la misère et le luxe. Alors, la misère de leurs conditions de vie, le cas de Mia, dont on parlait tout à l'heure, et bien d'autres. C'est un univers dans lequel vous avez un défilé et tout ça, mais lorsque il faut manger à midi, alors on va au coin de la rue chercher un repas. Entre parenthèses, on se fait engueuler parce qu'avec le budget dont on dispose, on ne peut pas se permettre de faire des choses extraordinaires. Mais voilà, vous revenez avec du McDo, vous faites engueuler parce que telle personne est au régime et donc il faut une salade sans assaisonnement et il faut retourner. Enfin bref, c'est un cauchemar. C'est un point. Et d'un autre côté, parfois, pour certains, on va dans des grands hôtels. On prend l'avion, on bénéficie de fringues, etc. Mais ça peut être dans le profond, dans la même séquence, que vous êtes logé dans un grand hôtel 5 étoiles, mais pour vous nourrir le soir, vous êtes obligé d'aller dans un truc sordide pour vous restaurer. Voilà. Bon, je terminerai par l'évocation de quelques figures. Donc Mia. Alors Mia, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une styliste reporter d'origine italienne, donc ça indique bien, comme ça, que l'Italie soit très loin, mais enfin, c'est quand même un indice d'internationalité. Mais elle a travaillé aussi, je crois, à Milan, elle a quand même circulé. Donc elle est styliste reporter. Je l'ai dit, elle a fait aussi pas mal de voyages. Elle est vraiment insérée dans le milieu. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce que vous dites par ailleurs sur elle, c'est toujours très intéressant, hein, mais sa chute. Alors, sa chute, pourquoi a-t-elle chuté? Parce qu'elle a voulu, à un moment donné, on lui a proposé la direction d'un magazine commercial. Enfin, la pauvre, elle allait pouvoir gagner un peu sa vie décemment. Mais malheureusement, ce magazine se casse la gueule et elle se trouve sans travail. Mais surtout, mais par ailleurs, elle va être grillée puisqu'elle aura accepté de se commettre dans cet univers impur, profane, qui est celui de la presse commerciale. L'autre cas qui est très intéressant, c'est celui de Thierry, qui est un styliste à l'ancienne et qui a vu le monde transformé autour de lui. C'est un homme qui était reconnu, qui était bien payé, qui a été l'éminence grise de Karl Lagerfeld, donc apparemment qui avait tout pour être heureux. Mais, pour des raisons un peu complexes, qui n'est pas entièrement claire, hein, il rompt avec Lagerfeld, il en avait marre de travailler avec lui, Et ensuite, il va vivoter, enfin, plus ou moins bien. Je crois qu'à un moment donné, si mon souvenir est bon, étant dans la dèche, il fait appel, il se tourne vers Lagerfeld en lui disant « Tu ne peux pas faire quelque chose pour moi ?» Et l'autre fait la sourde oreille. Hein, c'est ça. Bon. Alors, au point où on le trouve, il se cherche un job. Et financièrement, il est aidé par son frère. Alors, c'est une chute incroyable, étant donné ce qu'il avait, puisque au fond, c'était l'éminence grise donc de Lagerfeld. C'est lui qui faisait un certain nombre de choses, mais va tomber dans l'obscurité, ou du moins, il est menacé par l'obscurité. Alors, je ne sais pas quel âge il a, c'est peut-être pas trop grave.
Il n'est pas très clair sur ce point,
vous l'avez vu, oui.
Oui, je l'ai vu, mais ce qu'il m'a dit ne correspond pas avec les dates qu'il m'a dites. Donc, je pense qu'il a plutôt 70 ans maintenant.
Oui, bon. Alors, bon, se pose la question des caisses de retraite et tout ça, de cette population. Voilà, donc, ma présentation. Je terminerai par des questions, des remarques. Alors d'abord, première question, c'est la question de la mode et le genre. Alors, je vous rassure, ce n'est pas mon genre, c'est le cas de le dire, d'embêter comme ça, de manière systématique, et le genre, hein, là-dedans, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que vous allez un peu rapidement sur la question de la proportion de femmes. Alors, d'une manière globale ou même intuitive, hein, je ne sais pas, quand on va dans ces séances, est-ce qu'il y a 2/3 de femmes ou est-ce que, bon. Et d'autre part, peut-être, je dirais surtout, la proportion de femmes selon la position hiérarchique et selon les métiers, les spécialités, etc. Hein, chez les photographes, chez les maquilleuses, donc là, ce serait quand même un point précisé. L'autre question, c'est une question d'homme. La mode masculine, est-ce que c'est une petite annexe minuscule de cet univers du luxe, ou est-ce que est-ce qu'il y a des relations, bon, voilà, je ne sais pas si les gens travaillent aussi, quelqu'un qui fait dans le féminin fait aussi dans le masculin, voilà, c'est des questions qui me semblent importantes. Est-ce que c'est les mêmes règles du jeu, ou est-ce que, ayant démontré ce que vous aviez à montrer sur le luxe féminin, bon, le reste est résiduel. Donc voilà, première question. Deuxième question, je serai cette fois-ci offensif, les critiques, c'est votre grand silence sur les trajectoires. Très souvent, vous semblez reprendre un peu les catégories d'un CV, un tel a travaillé ici, ensuite il est allé là-bas, il a bougé géographiquement, mais il y a un grand silence sur l'origine sociale et la socialisation familiale, sur, je ne sais pas, les styles de vie, les pratiques culturelles. Est-ce que quand on, avec Mia, si vous lui parlez de cinéma, elle est au courant, elle n'est pas au courant? Est-ce qu'elle lit un livre par an? Est-ce que, voilà, ces gens-là, bon. Alors, autre aspect sur lequel vous êtes très discrète, c'est la vie sentimentale et familiale de ces gens-là. Parce que quand on voit ce que sont les conditions de vie de ces individus et le sort de ce malheureux André dont on a parlé tout à l'heure, qui parle de la Saint-Valentin, est-ce qu'il n'y a pas une part importante du célibat, du renoncement, alors peut-être pas une vie sentimentale et sexuelle, mais à quelque chose de stable, avec des horaires, avec... voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'André est intéressant, parce que peut-être par son côté petit bourgeois, il manifeste un peu la vérité de la profession. Alors en effet, je pense que si vous aviez davantage évoqué ces trajectoires, ça aurait permis de comprendre ce qui peut prédisposer à l'adhésion à cet univers de la mode. Voilà, l'explication par « ça fait rêver les gens » est insuffisante. On ne peut pas dire « ça fait rêver, donc les gens se retrouvent là ». Ça ne fait pas rêver tout le monde. Ici, à cette table, je ne sais pas, bon, pour voir. Voilà. Ensuite, cela aurait permis d'expliquer les différences entre les élus et les réprouvés, c'est-à-dire ceux qui, finalement, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça, que, voilà, qu'ils ne sont pas heureux là-dedans. Donc, voilà, il y aurait peut-être une hiérarchie qui s'expliquerait par les trajectoires entre ceux qui sont canonisés dans par l'univers de la haute couture, qui sont heureux, qui sont aussi accomplis, je ne sais pas, Lagerfeld, enfin, et d'autres, ceux qui tiennent en serrant les dents, et ceux qui s'en vont. Voilà. Voilà, mes remarques, et j'aurai une dernière question qui me semble sociologique, hein, c'est la réception de votre livre, comment ça a été lu dans ce milieu. Voilà, les réactions, puisque c'est une manière de tester vos hypothèses. Peut-être que vous êtes trompé dans vos hypothèses et que vous en êtes rendu compte au moment de la réaction des gens, qui peut-être peuvent être moins hostiles que vous n'auriez pensé, ou inversement, des résistances que vous n'auriez pas soupçonnées, etc. Voilà.
Je vous remercie. Merci beaucoup.
Je vous entends.
Oui.